Est intéressée par ce sujet du climat. Fatiha, tu es toujours là, ma chérie.
Oui, je suis là, j'écoute.
Qu'est-ce que tu penses de cette discussion qui est... C'est vrai qu'on en parle rarement, mais c'est hyper intéressant ce qu'il dit, notre ami. Hein. C'est vrai ou pas?
Je me souviens de la canicule 2003.
2003, tu te souviens?
Oui. Oh. Et bien, moi, je n'oublie pas le détail, et c'est de là que, par exemple, on voit la différence. Du changement climatique.
Oui.
Voilà, parce que avant 2003, il y avait de la neige en hiver et c'était
les saisons. Il y avait les quatre saisons, c'est vrai.
Et ben, je me rappelle que, vu que les saisons étaient des saisons et qu'il y a des gens qui font des programmes en pensant que tout sera figé, que, etc., mm-hmm. je me rappelle d'une info qui était passée et un train à Marseille. C'était arrêté carrément parce que je pense que je me souviens d'une information que j'ai entendue, je n'en ai pas rêvé, parce que c'était programmé pour une température à 35 degrés maximum.
Ah oui?
Voilà. Oui.
Ah oui.
Et donc c'est après cette canicule qu'il y a eu réflexion justement qu'il y avait des chances de revoir, vu qu'on y est. On y est maintenant.
Oui,
Donc c'était vraiment 2003, parce que je n'arrive pas d'oublier.
2003, c'était la canicule, oui.
C'était vraiment la période de la canicule, et c'est ce qui a fait que c'était l'année où c'est le président Chirac qui a son âme. Ah, s'il avait été là, la France serait encore en bon état, je veux dire. Donc, ceci pour la petite note oui. positive, voilà, je ne veux pas... Eh bien, tout le monde était en vacances, et c'est de là que... Il y a un service minimum qui est depuis pour que les politiques ne partent pas tous ensemble à des.
C'est-à-dire qu'il y a
des distances limitées.
Oui, oui, limitées, je me souviens. Effectivement, voilà.
Il était rentré de là où il était vacant. Je me rappelle de ce détail.
Oui.
Il faudrait vérifier.
Non, c'est vrai, je me souviens.
J'avais entendu aux informations que. C'était senti à quoi? Au train, je ne sais pas à quel train, ou bien est-ce que c'était un TGV, j'en sais rien, je ne me rappelle pas, mais avec c'est-à-dire une limite de température,
ouais.
que ça résistait à une chaleur de 35 degrés par au-delà. Or, on a eu quand même plus.
Oui. Non, mais c'est vrai. Voilà. Fatiha, tu pars pas. Cédric non plus. Et on prendra Safia avec nous. Safia de Saint-Denis. Allez hop, tu feras partie de la discussion, ma chérie. 01 53 48 3000. On marque une courte pause. Elle est très courte. A tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Peur FM, 22h minuit. Confidence avec Vanessa.
Au 01 53 48 3000. Voilà pour tout le monde. Alors on est là on est dans la canicule, dans c'est vrai qu'on a de plus en plus chaud. Il a raison Cédric hein, parce que 2003 on a eu ce phénomène hein, vraiment je sais pas si vous vous souvenez pour les plus âgés hein, comme moi. Et les plus jeunes, je pense pas, hein, ils se souviennent pas, hein, tu sais même pas ce que c'est 2003. Pourquoi la 2003, t'étais même pas dans le ventre de ta mère, toi? Même pas ta mère, elle était pas. Hein,
je venais d'en sentir justement 2003.
Ah, t'es né en 2003?
Bah ouais, je suis né en mars 2003, moi je l'ai bien subi la canicule. Hein. Et les effets secondaires, je vous mens pas, c'est horrible, c'est atroce. Là, j'ai une corne qui m'est poussée là, par la tête.
Je comprends pourquoi. Vous comprenez pourquoi? Après 2003, tout ce qui est né, vous avez vu ce qu'on a hérité, tous ces gamins là. Aïe, non, on rit, mais c'était dramatique, vraiment. Je vous reprends, Cédric et Fatiha, on va continuer sur notre lancée. Mais avant, on va accueillir Safia. Safia, qui nous appelle de Saint-Denis. Safia. Bonsoir, Safia.
Oui, bonsoir, Vanessa.
Comment bonsoir, bienvenue, Safia. Et toi, tu
merci,
vas bien?
Ça va, Sahaftorak.
Toi aussi, Sahaftorak aussi.
Comment tout le monde?
Merci, ma chérie.
Et puis, Saharam Dankom.
Moi,
j'attendais une place dans mon parking. J'ai dit, je vais partager avec.
Est-ce que tu as trouvé une place?
Non, pas encore, je suis dans la voiture.
Oh mince. Ah ouais, ben il y a pas de place dans le parking.
Non, c'est nous, c'est le cirque.
C'est pas des places attribuées. Non.
Non, pas du tout.
Oh là là. Bah tu sais ce que tu fais, t'achètes le truc là, je sais pas ce que c'est, l'espèce de barre là qu'on relève en métal.
Oui, mais ils veulent pas payer les locataires. Moi, je suis
Non, mais tu l'achètes, tu la places et celui qui est pas content, qu'est-ce que je te dis, Adélia? Ah, on est en 2024, ma chérie. Ah, allez. Les maïs d'Omch, c'est pas la peine.
Oui, mais
il faut pas, il faut continuer. Hein. On est avec Fatiha et Cédric.
Ben, bonjour Fatiha, bonjour Cédric. Ben, bonsoir, bientôt.
Oui.
C'est le soir, là. On va bientôt aller dormir.
Non, pas encore, c'est Sahara. Cédric, Fatiha, on est avec Safia, qui a du mal à trouver une place. La pauvre. Alors c'est son problème, Fatiha, de ne pas trouver. C'est vrai, la nuit, quand tu rentres de ton travail, hein, c'est ça, Safia?
Non, j'étais à la mosquée, j'ai fait la prière.
T'as fait Tarawih? Voilà, c'est pareil.
Mon travail, je finis à
5h30. Ben écoute, comme on dit, Makboula, Inch'Allah. Mais elle rentre, la pauvre, très tard le soir, à 23h. Non, c'est pas possible.
Ouais. Des fois même je rentre à l'heure du repas vers 18h pour faire à manger, je peux pas, je reste dans la voiture.
C'est terrible ça. Oh, les histoires de parking, alors ça vraiment.
Là, c'est le cirque. Nous on est devant une bouche de métro avec tous les gens qui veulent prendre de la ligne 13.
D'accord.
Ils viennent directement ici, se garent et nous on reste comme ça dans le.
Les riverains. C'est terrible, hein.
Dans l'attente. Voilà.
Ça c'est ça le problème. C'est ça le souci, Paris et région parisienne, de ne pas trouver de place pour se garer. Cédric et Fatiha nous parlaient de... Alors, je ne sais pas si toi, tu as souvenir de cette fameuse canicule de l'année 2003 qui a fait tant de victimes malheureuses. Tu te souviens de ça, Fatiha, Safia?
Je me souviens, je suis gardienne d'immeuble, moi.
Ah oui, d'accord. Ah oui, ben justement, il y a beaucoup de personnes âgées qui vivaient seules. Et,
On fait plus de social que du gardiennage. Hein,
parce oui, c'est vrai.
Là où on est, nous, plus il y a beaucoup de personnes âgées. Ils sont seuls, ils ne veulent pas sortir.
Oui, tu veux qu'ils aillent, Msakin?
Oui, mais normalement, ils devraient s'occuper de ça. Parce que tu travailles toute ta vie pour finir comme ça, c'est triste.
Ouais, mais comment t'expliquer? C'est-à-dire que travailler toute sa vie, oui, on travaille, c'est clair. Mais ces personnes, elles habitent chez elles, elles ont leurs meubles, elles ont leurs, il y a les odeurs, tu vois, il y a tous les souvenirs qui sont là. Donc partir. Et tu en as qui les poussent à aller dans des EHPAD. Si c'est pas de leur propre chef, c'est-à-dire ces personnes elles-mêmes qui décident, parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que parfois elles sont dans une situation, la santé, etc. C'est pas facile. Voilà, elles n'ont pas le choix. Mais quand elles ont toutes leurs facultés, tu vois, mentale, physique, tout ça, se retrouver dans des EHPAD alors qu'elles ne veulent pas, je trouve ça triste.
J'ai un cas, si je peux me permettre de parler de ça, mais pas de nom et tout ça.
Non, bien sûr.
Une personne âgée, il n'y a pas longtemps, elle est décédée. Elle vivait toute seule dans son appartement, elle était tranquille et tout ça. Bon, nous, les gardiens, on allait la voir de temps en temps. Il y avait une infirmière le matin, une dame de ménage et tout ça. Mais une fois qu'elle a perdu un peu les repères, quelqu'un de sa famille, je ne sais pas qui, ils l'ont mis dans l'iPad et puis elle s'est suicidée. Elle avait 86 ans.
86 ans, c'est suicidé. C'est terrible.
Je parle de ça, mais je suis choquée.
Que c'est triste, mon Dieu, de mourir de cette manière à 86 ans.
Moi, j'ai cru qu'elle est morte, morte naturelle.
Oui, oui.
Et mon collègue, il m'a dit non, elle s'est suicidée. Et moi, je me suis.
Oh mon Dieu.
Ça m'a donné une grosse claque.
Ah ouais, c'est horrible. Ah, c'est horrible.
Voilà.
Ah, c'est terrible.
Excusez-moi, je vous raconte des choses qui sont tristes.
Non, c'est bien. Mais il faut parler des choses de la vie. Bien sûr qu'il faut en parler. Et durant cette canicule, Safia, toi qui es gardienne d'immeuble, enfin, une des dernières, hein, parce qu'il y en a de moins en moins avec aujourd'hui tous ces... Quel dommage, mon Dieu, parce que tout tournait autour de ce qu'on appelait la... ça portait un nom du gardien, la loge. On appelait ça la loge.
Oui, la loge. Oui. Ah, on a toujours des loges. Hein.
Mais ça se perd de plus en plus.
Il y en a
de moins
en
moins.
Maintenant.
Non.
C'est moins en moins, même chez nous.
Nous, oui.
Moi, ça fait 32 ans que je suis dans ce poste. Ils veulent plus de gardiens. Ils veulent que ça soit des sociétés qui font le ménage.
C'est ça.
Et bon, voilà, ils veulent plus que.
Oui, avec les digicodes, les machins, etc., les codes. Voilà. C'est dommage.
Ça coûte plus cher, oui.
Mais c'est dommage. Parce que la vie, qui c'est qui faisait vivre, c'était quoi l'âme? L'âme, j'ai envie de dire même, oui, l'âme. De l'immeuble, d'un immeuble. Ben, c'est le gardien. À l'époque, on disait le ou la concierge. Et des fois, ils étaient en couple, les concierges. Mais c'est eux qui faisaient vivre, c'était eux l'âme de l'immeuble. Et puis, il y avait une sécurité. Parce que, il y avait toujours une vitre, une porte vitrée, etc. Donc,
la lumière. Il y a la confiance aussi, hein.
Oui, puis la lumière qui s'allume, donc il voit tout, nuit et jour. S'il y a quelqu'un qui a un problème, ben il va toquer.
Pour le moment, ils veulent plus. Maintenant, on est dans nous, on est dans 93. Il n'y a plus de gardiens directement dans l'immeuble là où il habite. Il habite ailleurs et il vient travailler dans la journée et pas.
Oh oui, c'est un métier comme un autre. Non, ça devrait pas être comme ça. Avant, c'était pas un métier comme un autre. C'était un membre de la famille. Oh mon Dieu. Oui, vas-y, envoie un message, ma chérie.
Alors, moi, j'envoie un message à la personne quand il m'entend parler. Je donne mon prénom, il m'enregistre, il l'envoie à mes enfants. Moi, je suis adulte, je fais ce que je veux de ma vie. Je veux pas qu'on m'enregistre et on envoie à mes enfants. Moi, je fais pas des choses en cachette, je parle dans une radio et souvent, j'appelle que Vanessa.
C'est incroyable.
Et ça, Safia, cette personne, elle va peut-être se reconnaître, oui.
Mais c'est incroyable, ma chérie, ce que tu me racontes, mais les gens, ils sont.
C'est la vérité.
Comment on peut être abruti à ce point? Non, mais attends, c'est juste pas possible.
Il a envoyé à quelqu'un de mes enfants, il a dit, regarde, il y a ta mère qui passe sur la radio,
Oui, alors pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait?
Je veux juste te dire que.
C'est fou, Fatiha, t'as vu? C'est quoi cette montagne? Tu sais quoi? On est resté au stade de. Tu vois, on parle de nostalgie, mais de la belle nostalgie. Mais il y en a qui l'ont. Comment?
C'est peut-être un jeune, hein.
Ça veut dire qu'il a reçu une très mauvaise éducation. C'est quoi cette histoire?
Enfants, ils savent que ce que je fais. Ils savent que je suis dans le parking au train.
Et tu dois rien à personne? Mais c'est quoi ça? Moi, on ne doit rien à personne.
Allez. Excuse-moi, je rentre un truc.
Vas-y.
Juste, je dis que c'était, je sais pas, enregistrer une personne et l'envoyer, je sais pas compris.
Mais quelle bêtise.
Parenthèse.
Non, mais c'est bien de dénoncer ça, tu vois, parce que il y a encore des gens qui, malheureusement, s'ennuient dans leur vie. N'ont rien à faire que d'aller enregistrer les gens et de. Franchement, occupez-vous de vos affaires. Moi, je leur dis, si vous occupez pas de vos affaires, c'est Herbé qui va s'occuper de vous.
Je sais pas si tu te rappelles, parce que moi, j'ai appelé pour vendre des bricoles chez moi.
Oui, dans les petites annonces, et alors?
Voilà, dans les petites annonces, et c'est tout. Voilà. Il y en a un monsieur aussi qui m'a appelé, il m'a dit c'est pas la peine de parler avec Vanessa, il restait longtemps de parler avec elle. Parce que je dis, moi, Vanessa, elle est dans la radio, elle peut même couper si elle veut, elle coupe,
Temps que tu veux. Pourquoi il est. C'est mon avocat, lui. Ah, c'est marrant, ça. Ils sont marrants, les gens, hein. Oh là là,
déjà. Mais je tiens à dire, excuse-moi, mais
Non, mais t'as raison.
Il faut des tout pour faire un monde.
Non, mais on vit dans un monde, mais c'est pas possible. Non, mais c'est vrai. On vit dans un monde. C'est incroyable. Incroyable.
Et qui l'enregistre aujourd'hui? On a des belles voix, quand même, non?
Ben voilà, exactement. Non, mais tu te rends compte, mais de là à l'enregistrer pour envoyer à ses enfants, pour dire. Non, mais quel. C'est pas possible.
Mais même maintenant, on voyez, est-ce que vous la réécoutez? Parce que ma fille, elle me l'a envoyé.
C'est incroyable. Maman, regarde.
C'est pas important.
Oui. Est-ce que Cédric est là toujours?
Ah ben oui, je suis là. Elle a raison, de toute façon, même, on parlait de hausse de température. Non, mais c'est vrai, il y a personne, eux-mêmes, font monter la température.
T'as vu ça? Je te jure. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est les gens. Ça monte très vite dans leur tête. C'est incroyable. Ouais. On en est là. Non, mais c'est terrible. Non, mais ça, c'est. hormis ton histoire, là, en fait, c'est Safia qui nous rappelle des choses hein, concernant des faits.
Oui, je sais.
Les gens
je
se sais, surveillent.
Moi, je t'entends des fois. Enfin, je suis toujours.
Les baffons.
Comment, Safia? Tu disais?
Tu te laisses pas faire, c'est bien.
Ah oui, non, moi ça m'énerve. Il y a des choses, c'est
une
pas
rebelle,
possible.
C'est bien.
Ah oui.
Vanessa.
Non, ça me dépasse. Il y a des choses qui dépassent. Mais les gens ont pris cette habitude de se surveiller, mais on est des gens libres. Vous comprenez pas ce que c'est libre? La liberté, il y a des gens qui sont morts pour leur liberté. Donc les gens sont libres de parler, de raconter leur vie. Moi, je défendrai toujours ceux auxquels on fait du mal et qu'on critique tout le temps. J'ai toujours défendu toutes les personnes, les minorités surtout. Par exemple, les homosexuels, eh bien, c'est dérange. En quoi ça vous dérange? Ils sont là, ah, c'est péché, hein, c'est péché, tu vas en enfer. Comment tu sais qu'ils veulent en enfer? Déjà, toi, j'ai envie de lui dire à ces gens-là, celui qui parle comme ça, eh bien, celui-là, avec sa langue, si l'enfer il est quelque part, eh bien, c'est lui qui va rentrer dedans avant lui. Avec, mais bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que
on
ça? Ils sont là, là, elle est homo, là, elle est ceci. Mais, occupez-vous de vos vies, vous n'avez pas de problème.
Vous
avez de la chance, hein, franchement, de ne pas avoir de problème.
Il est comme il est.
Incroyable.
Ça, on a connu ça il y a longtemps.
Ah ouais.
On voyait des gens comme ça qui sont un peu, je vais dire, efféminés et tout ça. Même quand j'étais plus jeune,
hein,
on
n'a
jamais fait attention à ça. On fait pas attention parce qu'on se dit il faut pas. Et moi, je vais vous raconter un truc. Il y a une.
Et puis c'est des gens comme tout le monde. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'un hétéro, il serait. Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un homo? Ce que tu as, toi, monsieur l'hétéro, l'homo, il l'a aussi. Sauf que lui, eh bien, il est différent de toi, c'est tout. Et peut-être que toi, tu l'es, j'ai envie de dire à certains, mais c'est des homos refoulés. Donc, ils vont s'attaquer à des homosexuels parce que ils refusent, si tu veux, peut-être qu'à un moment donné, ils ont été attirés par les hommes quand ils étaient jeunes, mais ils ont enfoui au fond d'eux cette envie, cette attirance, et ça les titille de voir que les autres, ils vivent leur pleinement et librement. Et parce que c'est des personnes qui sont épanouies, qui n'ont de compte à rendre à personne, donc ils sont jaloux de leur liberté, moi je dis. Mais c'est peut-être ça, parce que quand tu vois ce que dit la psychanalyse, eh bien, il y a beaucoup d'hétéros, il y en a, hein, qui sont des homos refoulés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils étaient jeunes, ils étaient attirés par des hommes. Mais comme ils n'osaient pas, ils pouvaient, voilà, il y a la société, tout ça, eh ben, ça reste dans un coin de leur tête, et pourquoi l'autre il est libre de vivre sa vie? Que alors donc arrêtez, parce que d'abord on est ni homme ni femme ni ceci cela, on est tout un mélange, on est tout mélangé en nous. Il y a le X, le Y et il y a aussi le Z. Allez, oui.
En fait, ça, moi je connais un couple, je connais même, je crois que c'est des voisins ou quoi, je crois qu'ils sont gays mais depuis des années. Bon, moi je ne sais pas de ce qui se passe.
Bien sûr.
Apparemment, ils sont très très ouverts et tout, tu sais, c'est pas un
peu. Bah oui, t'as des couples homo, tu dis ça fait des années, t'as des couples homo qui sont beaucoup plus fidèles et qui durent dans le temps jusqu'à la mort que beaucoup de couples hétéros. Il va tromper sa femme au coin de rue, sa femme elle est avec lui, on les voit dans les voitures des fois, sa femme elle est à côté, lui toi tu passes et lui te regarde comme ça, il te ziote, il regarde les jeunes filles, il regarde tout leur autonomie, anatomie, que je raconte moi. Mais oui,
c'est que la psychanalyse, comme tu dis, elle est extrêmement large sur le débat, en fait.
Ah mais complètement.
Moi, comme je te dis, ces gens vivent en paix, sont prêts même à aider leur prochain, hein. C'est ça qui est incroyable, c'est que demain, les gens qui se font devant chez eux, eux, ils sont capables de
n'importe
qui. Mais la psychanalyse, elle explique aussi une chose, par exemple, tu sais, aujourd'hui, comme on dit, tout est dur, tout est compliqué. Il y a encore 50-60 ans, même si je respecte totalement leur choix de vie, c'est leur choix de vie, je m'occupe de ma vie, déjà elle est compliquée, et après peut-être je m'occuperai de leur vie, mais le truc c'est que la psychanalyse a expliqué une chose, c'est qu'il y a une sorte de lassitude qui s'installe chez ces personnes. Ils voient la vie comme fonder une famille, tout de suite mettre le pas, faire des rendez-vous, s'attacher, entretenir, créer des liens, se lancer, se redécouvrir. Tout ça, ça leur paraît très dur. En fait, avant, il y avait une petite minorité de personnes. Sauf qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes.
Non, parce que... Attends, Cédric, excuse-moi de t'interrompre. Non, il n'y avait pas de minorité. Ça a toujours existé depuis que l'homme, l'être humain existe sur cette terre, il y a l'homosexualité. Sauf que avant, ils avaient les pauvres, on leur interdisait d'exprimer cette de se montrer. Donc ils rasaient les murs, ils se cachaient, ils montraient pas. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on est qu'un homme est un homosexuel n'est pas forcément efféminé. Moi, j'ai des amis que je connais et qui sont homosexuels. Et ben, tu jures qu'ils ne sont pas. Parce qu'ils n'ont rien, aucune apparence, hein, attention, hein. Alors, attends, c'était pas une minorité, ça a toujours existé, sauf qu'on leur a, ils étaient les pauvres interdits d'exister, et on les mettait même en prison dans beaucoup de pays, ils étaient poursuivis par la justice, et il y a encore des pays où on les tue, on les pend, etc. Et ils ont toujours été pourchassés, les homosexuels. Donc, ce qui fait qu'ils se montraient pas, c'est tout. Mais ils ont toujours existé. T'en as qui sont mariés, ils ont des enfants, tu sais même pas qu'ils sont homosexuels. Mais il y a autant de nombres, hein.
Il y a 100 ans.
Là, ils se montrent, et là ils se cachent pas, ils ont raison, c'est tout.
Ils étaient chassés autant qu'une sorcière, ça, tu peux pas le dire. Il y a 100 ans.
Ben oui. Aujourd'hui, ils se montrent plus dans, surtout en Occident, il y a des lois qui les protègent, donc ils ont cette liberté de pouvoir vivre tranquillement, en paix. Alors, donc c'est pour ça qu'on les voit, mais en vérité, même en France, hein, c'est interdit. Donc c'est pour ça qu'on les voyait pas. Et dans nos pays, alors là, je te raconte même pas, il y en a énorme. Il y en a comme partout. Il y en a, les gens ils savent pas, mais il y en a qui sont mariés et les gens savent pas qu'ils sont homosexuels. Ils sont obligés de se marier, de faire des enfants.
Non, ça c'est plus grave ça.
Mais ils sont, ils te disent pour pas passer inaperçu, parce que tu vois, les gens ils commencent à faire à jaser. Ah ouais, t'as vu, un peu efféminé, hein, t'as vu, il est pas marié, t'as vu, oh, je crois que je l'ai vu avec un copain, waqila. Donc ils en ont alors tellement marre pour pouvoir survivre dans ces sociétés rétrogrades et vraiment moyenâgeuses. Et bien pour survivre, ils sont obligés de se marier, mais ça, ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix.
J'ai une question, Vanessa, s'il te plaît.
Ouais.
Lors de tes chroniques, le soir, lors de confidences, un jour, 2 heures, c'est vrai qu'on fait le tour de énormément de choses. Mais si on rebondit sur ce qui a été dit il y a 10 minutes, concernant les personnes âgées,
oui.
On a beaucoup d'attention par rapport à elles.
Oui.
Maintenant, j'ai une question à te poser à ça. Quand tu es dans un EHPAD, une personne, par exemple, on va dans un EHPAD,
oui.
Et on ramène des personnes gays. Les personnes âgées vont être contentes de la visite. C'est comme en famille, ils sont contents de la visite de leurs petits-enfants. Mais quelque part, il y a une sorte d'incompréhension là-dessus. Et ce serait, excusez-moi du terme, mais cracher un peu sur la façon de nos anciens dont ils pensent.
Ben les anciens, il y avait des homos chez les anciens. L'homosexualité a toujours existé. Et je vais te dire une chose. Là où tu te trompes, Cédric, c'est que justement les grands. Attends, les grands-parents. Les personnes d'autres générations sont beaucoup plus, beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus tolérantes que leurs parents, les homosexuels. Et je peux te le dire, hein. Je peux te le dire parce que je connais pas mal d'homosexuels qui sont protégés par leurs grands-parents. Et les parents, des fois, par rapport au regard des gens, etc. Je critique pas les parents parce que le regard des gens, il est dur. Je peux comprendre les parents parce que c'est le regard des autres. Les gens sont très méchants. Regarde la preuve, Safia, la pauvre qu'elle appelle. Elle échange 2-3 mots. Ah, bon, ils prennent le temps d'enregistrer, d'envoyer à ses enfants, etc. Tu vois les gens comment ils sont méchants. Donc imagine un homosexuel. Voilà, le problème il est là. Donc c'est pour ça que les parents.
J'ai passé autre chose.
Oui, voilà. Mais c'est vrai. Et les parents, qu'est-ce qui se passe? Les parents, ils ont peur du regard des autres. C'est juste ça, les parents. Autrement, ils aiment leur enfant. Par contre, là où tu fais erreur, c'est que les grands-parents, ils ont dépassé ce stade. Les grands-parents, tu peux tout leur raconter. Ce que tu peux pas raconter à tes parents. Parce que les grands-parents ont la sagesse de l'âge. Ils ont du recul. Voilà, du recul sur la vie. Et ils sont beaucoup plus tolérants. Et ils adorent leurs petits-enfants. Quel que soit leur vie, etc. Crois-moi qu'ils sont beaucoup plus tolérants que...
Je peux m'exprimer du coup?
Non, mais vas-y, mais pour te dire.
C'est les seuls, Vanessa, qui ont une réflexion poussée là-dessus. Ils ont le temps de réfléchir, ils ont le temps, ils ne vont pas brusquer quelqu'un, ils vont essayer de comprendre. En fait, ils n'ont même pas. Tu ne vas même pas le savoir. Ils ont du respect, les anciens. S'ils ont de la visite et qu'ils acceptent d'ouvrir leur porte, ils ne
veulent pas que
les personnes s'assoient.
Parce qu'ils ont du recul et de l'expérience.
De là, en faire. Moi, Vanessa, tu dis, en parlant toute transparence ici,
oui.
C'est ton choix. pour toi, tu peux me dire que j'en veux trop, mais moi j'ai une famille, je ne veux pas en faire non plus un débat pour le ramadan, on peut parler d'autre chose pour mon sexualité, mais dans ma famille.
Ouais, mais ils existent, il y a des homosexuels, pardon, attends, Sam Hélé, excuse-moi, il y a des homosexuels qui sont musulmans et qui font ramadan. Oui, et alors, c'est pas à nous de les juger. C'est pas on peut pas dire c'est honteux, c'est comme si tu parles de quelqu'un qui a une différence, peu importe ce que c'est, et tu dis je veux pas parler de ça parce que voilà. Non, l'homosexualité c'est pas le sexe. C'est ça le problème. Là, on n'est pas en train de parler de sexualité.
Ça n'a rien à voir avec la religion.
Et ça n'a rien à voir avec la sexualité de la personne. Tu as des homosexuels qui vivent ensemble parce qu'ils sont attirés par le même sexe, mais ils vivent ensemble, mais ils ne pratiquent rien. Ils ont même pas de sexualité. Il y a rien. Juste, il y a le cœur qui vibre l'un pour l'autre. Ils s'aiment, c'est tout. Ça existe aussi parce que on pense que les hétérosexuels, ouais, c'est des saints. C'est pas des saints. Comment ils font des enfants? C'est pas des. Il y a personne qui est saint, hormis Allah Subhanahu. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à avoir cette discussion, peu importe quelle époque, période de l'année, etc. T'as des homosexuels qui font même le Hajj. Mais c'est très bien que c'est des belles personnes dans leur cœur.
On ne parle pas de discrimination dans leur santé, sur les 5 dernières minutes et sur les 20 dernières minutes qu'on parle de ça. On ne parle pas de discrimination, je ne me trompe pas. On parle d'étonnement, on parle de d'évolution.
Mais il faut que, ben justement, il faut avancer avec ça.
On a évoqué la discrimination sur la radio comme ce soir. Alors, je me trompe.
De quoi?
On n'a pas du tout été discriminatoire.
Non, du tout. Non, mais c'était pour aller dans ton sens en disant oui, c'est vrai qu'on peut en parler.
Tu sais que je suis chiant, je sais pas comment le faire à venir et puis à
t'es... Non, non, t'es pas du tout.
Mais je suis chiant.
Non. Tu n'es pas ce que tu dis. Cédric, c'est juste, je pense que bon, c'est vrai que si tu penses ça, parce que il y a une forme de conditionnement.
Pendant tu t'es affolé pendant 5 minutes, on a un peu pu dire qu'en fait, on parlait pas de discrimination, on disait par rapport à nos anciens. L'étonnement que aujourd'hui, il y a pendant 2000 ans, même ouais. Si moi j'ai ma soeur qui l'est, je te l'ai déjà dit, j'ai mon cousin qui l'est.
Regarde.
Mon meilleur pote, son frère aîné, ils ont été discriminés.
Tu vois, ils ont été discriminés.
Moi-même,
on va en parler. Tu vois, Cédric, ne pars pas, s'il te plaît. Safia non plus. Fatiha, les autres, vous pouvez venir aussi. On a une petite pause. On revient juste après, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Peur FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
الهشمي قروي بالحج الهشمي قروي بالله يرحمه ويسع عليه نسبلك يا عمري مون ديو cette chanson hein ça remue hein n'est-ce pas les souvenirs et c'est des chansons du des veillées du mois de Ramadan hein voilà et oui donc قروي بي cette semaine vous avez eu Chao chez El Tlayani c'est voilà ça représente aussi les soirées du mois de Ramadan. On passera aussi du chabi marocain. On en a passé il y a quelques jours aussi, il y a quelques semaines. Et pour penser à tout le monde. Eh oui, c'est important. C'est très important, tout ça. Ça fait partie des souvenirs de tout ce qu'on est en train de se dire, d'ailleurs. Bon, alors, Cédric, je pensais que tu étais parti. Heureusement que tu es revenu, parce qu'alors là... Alors là, c'est tout.
Je voulais faire une petite parenthèse.
Vas-y, Cédric. Cédric, il t'arrive de sourire?
Pardon.
Rien comment tu parles. Cédric, attends, te formalise pas, tu me connais comment je fonctionne. Parce que je t'aime beaucoup, la vérité. C'est pour ça que je me permets. Parce que Cédric, quand tu parles.
C'est très sérieux. Ouais.
Alors donc, je vais dire une chose. Alors donc, tu sais, Vanessa, alors si je peux me permettre. Tu sais, voilà. Alors, si t'as le sourire, tu fais. Alors donc, est-ce que je peux. Tu vois, voilà. Voilà, la différence. Je suis sûr qu'il t'arrive de sourire dans la vie. On va écouter Cédric parce qu'il a quelque chose à dire. Ouvrons bien grand nos oreilles et t'auras la parole juste après, Fatia. Oui, Cédric, vas-y, écoute, je t'écoute.
Bon, alors je vais faire une petite parenthèse hein, qui a totalement rien à voir parce que bon, on a assez parlé du sujet précédent.
D'accord, alors parle de ce que tu veux. Vas-y.
On va revenir un peu à nous. Moi, à ma racine. Hein. Alors, ma petite parenthèse, j'intitule Le Maroc légendaire.
Le Maroc légendaire, vas-y.
Alors, l'Atlas. Oui. Cette montagne marquait la frontière du monde antique connu. Elle tire leur nom d'Atlas, qui combattit en vain avec d'autres géants, les dieux conduits par Zeus. Atlas fut condamné à soutenir la voûte du ciel. alors qu'il avait refusé l'hospitalité à Persée. Ce dernier lui montra la tête de Gorgone, qu'il avait tué. Et Atlas, pétrifié, fut transformé en montagne. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle les montagnes...
L'Atlas. C'est un joli nom, hein.
Atlas.
Ah ouais. Le mont Atlas. Il y a aussi l'Atlas en Algérie, hein. Remarque, tu me diras, c'est la même région. C'est vrai ou pas? L'Atlas, c'est dans l'Est en Algérie. L'Atlas. Alors, attends, je vais regarder Atlas algérien et je vais mettre Atlas marocain. Comme ça, on aura les deux. Parce que pourquoi on appelle les deux Atlas? C'est incroyable. Regarde, voilà. Allez hop, je tape. Le Haut Atlas au Maroc. L'Atlas s'étend sur 2500 km de long. Ça, c'est le Maroc, hein. Selon un axe ouest-sud-ouest à est-nord-est. Du Maroc à la Tunisie en passant par le nord de l'Algérie. Ah, c'est pour ça. Donc, en fait, dans les trois pays, on retrouve l'Atlas traverse. Tu as vu, Cédric? C'est beau, hein?
C'est exactement ça. Et en fait, d'où ces montagnes ont été séparées en deux. Il y a aussi une petite histoire sur Tanger par rapport à la mythologie grecque. C'est le port de Tanger.
Oui.
Ce port aurait été créé par Anté.
Par qui?
Anté.
C'est qui celui-là?
C'est de la mythologie grecque. Hein.
C'est de la mythologie.
Bah oui. Ouais. Donc géant qui obligeait tous les passants en été avec lui pour les tuer. Anté renouvelait ses forces en touchant le sol. Hercule découvrit le prodige, soulevant le géant et le maintint en l'air jusqu'à ce que mort s'en suivit. Donc voilà le port d'Angers dans la mythologie grecque. Ben voilà le port d'Angers.
Le titan géant.
Jusqu'à les colonnes d'Hercule. Hein. Les colonnes d'Hercule, ça a un rapport aussi avec les autres montagnes de l'Atlas, le détroit de Gibraltar.
C'est vrai.
Donc voilà ce qu'est la petite parenthèse. Hein.
Ben, c'est une belle parenthèse. C'est une très belle parenthèse parce que ça fait. Ben, écoute, ça fait partie de l'histoire d'Afrique du Nord. Hein. Alors là, je regarde, mais c'est très loin. Après, ça parle d'Ibn Khaldoun aussi, au XIVe siècle.
Les colonnes d'Hercule. J'ai beaucoup dit toujours les colonnes d'Hercule.
Ouais. Hercule qui était très fort.
Voilà, Hercule, en fait, l'histoire raconte comme ça. En recherchant des bœufs ou des gérons, Hercule arriva à l'extrémité de la Terre. Donc pourquoi de l'extrémité de la Terre?
Surtout que la Terre, elle n'a pas d'extrémité, mais bon. Il ne savait pas à l'époque. Il pensait que la Terre, elle était plate.
Voilà, il était grec pour l'extrémité, c'était le Maroc, en fait. C'était le Maroc, donc pour eux, c'était l'extrémité.
Ouais. Alors qu'elle est ronde, la Terre,
donc,
mais bon.
Hercule, lui, il arriva à l'extrémité de la Terre, pour lui, donc, et séparant en deux une énorme montagne qui donnait naissance à l'actuel détroit de Gibraltar.
Le détroit de Gibraltar, oui.
Voilà. Il aurait élevé deux colonnes pour indiquer l'endroit où le soleil achevait sa course.
C'est incroyable. Fatiha voulait te répondre. Oui, Fatiha, tu voulais dire quoi?
Excuse-moi, Vanessa.
Oui, vas-y.
Je voulais faire une petite remarque. Je suis désolée de faire la remarque. Très intéressant ce que dit Cédric, mais oui. Je fais vraiment un gros effort pour quelque chose. Je ne sais pas si Safia est toujours à l'écoute.
Safia est là.
D'accord. Alors, je ne sais pas si. Je vais dire que moi, de mon côté, j'ai l'impression que quand Cédric parle, déjà, il y a un bruit de fond, je ne sais pas, ça parle ou je ne sais pas. Ah, moi, je ne sais pas. Et
non.
Complètement voilé. Moi, j'entends pas.
Tu l'entends pas bien? Il parle doucement, Cédric. Il parle doucement. C'est pour ça qu'il est discret.
On dirait qu'il y a un voile. On dirait qu'il y a quelque chose devant la bouche qui cache la voix. Donc, c'est pour ça que. Sinon,
tu l'entends mal parce qu'il parle doucement. Mais sinon, il a rien devant la bouche. Tu sais pourquoi? Parce que nous, on l'entend s'il y avait quelque chose. Donc, c'est juste que. Il parle doucement.
Oui, mais je sais que toi, à ton niveau,
il balbutie. Oui.
Tu aurais dit, toi, tu aurais fait la remarque quand tu nous entends pas ou quelque chose.
Quand j'entends pas,
non, il a une voix très sereine, il est serein, il n'y a aucun souci, c'est très intéressant.
Elle est très apaisante d'ailleurs, sa voix.
C'est dommage qu'il y a des. C'est comme si pour moi. Il y a des petites coupures, donc il y a un détail qui échappe. Donc là, tu parlais de l'Atlas. Moi, je pense que, notamment à la Tastelia, d'après mes souvenirs de géographie.
L'Atlas?
La Tastelia.
Télia?
En Algérie, c'est la Tastelia. C'est la Tastelia en Algérie.
Télia. Ah, je connaissais pas ça. Cette expression. Atlas Télien. Ah ouais. Je vais regarder ce que c'est. Atlas Télien avec deux L, effectivement, est formé d'une chaîne de montagnes longeant les côtes de l'Afrique du Nord et s'étirant sur environ 1400 kilomètres, ma chérie. Alors, ensemble montagneux d'Algérie allongé en bordure du littoral et ayant de 70 à 150 kilomètres de profondeur, qui juxtapose massifs Kabylie et Ouarsenis, Tlemcen, Constantine, Djemila, Guelma, Marnia, Madid, Nedroma. Oh là là, oui. Ah, dis donc, l'Atlas. Oui, après, ça part au Maroc, ça traverse, hein, la Tunisie. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Ouais. C'est fou, hein.
Vanessa, s'il te plaît, je pourrais dire quelque chose.
Tu peux dire ce que tu veux, tu es libre, ma chérie.
Voilà, je vais dire quelque chose et pourquoi je vais carrément te dire quelque chose, enfin, comme ça, aux auditeurs aussi.
Oui.
Et après, je vais carrément écouter Cédric à ma radio. Je ne veux pas rater ce moment parce qu'il dit des choses intéressantes.
Oui.
Alors, pour Safiya, ça s'adresse à Safiya.
Eh bien, elle est à l'écoute, elle est avec nous.
Je suis là, oui. J'espère que... Bon, écoute, je vais te dire une chose. C'est comme moi.
Dis-moi.
Moi, ma devise, ça a toujours été, un jour, ça fait... Enfin, c'est l'éducation, tout vient de l'éducation. Mmh. Quand on a une éducation solide...
Oui.
Moi, je me rappelle, mon père, c'est pas uniquement des dictionnaires ou c'est des bibliothèques qui sont partis. C'est les fondations de l'éducation. Un jour... Je sais pas, il fallait quand on intervient comme ça pour une cause comme ça noble, on va dire. On va au devant de quelque chose pour sauver quelque chose. Alors il nous dit quand tu sens que tu dois intervenir, tu interviens, tu te poses pas de questions, ni du comment, ni du pourquoi, ni ce qu'on va dire.
Qu'est-ce que diront les gens?
Non, il faut. Quand toi tu sais.
Oui, mais justement, tant pis, au détriment de tout ce que peuvent dire les autres. Il faut avoir cette force, ce courage de dire les choses et de défendre aussi ce qui mérite d'être défendu. Parce que sinon, eh bien, ça veut dire qu'on manque de courage et qu'on serait des lâches.
Ouais.
C'est vrai ou pas?
Tu sais, Vanessa,
ouais.
Je vais donner un exemple pour élever le niveau. Donc, c'est lamentable que tes enfants ils aient reçu des choses comme ça. Je vais pour éviter.
Non, ça m'a pas vexé. Hein.
Non, pas du tout.
Moi, ça m'a surpris. Je me suis dit, il a rien à faire. Tu fais tout en mieux. C'est quoi?
Justement.
Je sais pas. C'est ton travail. C'est pas pourquoi il fait ça. J'ai pas compris.
Exactement. Non, oui. toi, à ton niveau, tu n'accordes même pas d'importance, tu trouves ça lamentable et mesquin. Et alors, pour donner un exemple pour élever le niveau des gens comme ça, parce que ils traînent cette mentalité qu'ils drainent dans les vaisseaux de leurs enfants et ça se transmet. C'est bizarre.
C'est ça.
On les voit. Je vais donner un exemple tout simple. Moi, j'ai des petits enfants.
Oui.
Alors, garçon. Alors, l'aînée, elle va faire ses 16 ans.
Oui.
Elle est en seconde dans une classe où actuellement, elle nous a dit qu'ils sont trois dans la classe à jeûner. Oui. Il y a elle et deux garçons.
Oui.
Il y a un garçon qui n'est pas musulman.
Oui, mais qui jeûne. Oui. C'est son droit.
Et qui jeûne.
C'est son droit.
Oui, il veut. Voilà. Alors, elle. Ils ont un principe, être un groupe de copines. Donc en seconde, c'est toujours comme ça. Au début, il y a des groupes qui se font.
Oui.
Elles sont un groupe de filles.
Oui.
Et comme on dit, il faut bien dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc les parents respectivement, ma petite fille, les parents de ses copines, chacun cherche à savoir les parents de chacun qui leur fille fréquente.
Oui.
Parce qu'elles sont un groupe de filles.
Oui.
Est arrivé le tour de ma fille, elles ont une petite réunion et elle a dit à sa fille, madame, elle lui a dit, tu invites tes copines à la maison.
Mmh.
Elles sont venues, elles sont passées un week-end avec elles. Et puis c'est des filles qui sont très simples, elles adorent dormir à n'importe comment, sur des matelas par terre, c'est pas... Et pourtant, Dieu sait si chacun son train de vie.
On ne rentre
pas dans ces détails.
Oui.
Elles sont venues, donc elles ont planté ma petite fille dans son cadre familial, et elle, pareil.
Oui.
Eh bien, quand elles doivent elles mangent à la cantine, mais pour la cantine, il faut que les élèves s'inscrivent à l'avance. Ça se passe comme ça dans leur lycée.
Oui.
Et donc, quand le jour où elles ont sport, elles doivent aller ailleurs qu'au lycée, donc elles vont manger dehors. Et quand elles ne se sont pas inscrites, elles n'ont pas eu le temps, elles vont manger dehors, elles n'ont pas le temps de rentrer chez elles. Mmh. Elles vont toujours manger quelque part ensemble.
Mmh.
Alors, maintenant que c'est le ramadan, ma petite fille est un peu gênée de gêner ses copines. Donc, elle ne rentre jamais à midi. Et là, ma fille m'a appelé hier, elle m'a dit, tu te rends compte, Nora, le premier jour, elle est rentrée à la maison. Elle a dit, maman, je rentre. Ah bon? Elle lui a dit, parce que mes copines, je ne veux pas les gêner.
Oui, parce qu'elle mange.
Ses copines. Oui, parce qu'elle mange.
Et elle ne veut pas les, voilà, elle veut pas les déranger.
Voilà.
Et par respect, et bien, donc, ouais, c'est bien ça.
Comme
le respect mutuel.
Je vais dire, et pire, plus encore, je vais dire, l'esprit élevé, c'est-à-dire la maturité de pensée par rapport à beaucoup d'adultes de bas étage, comme on dit, dans leur pensée.
Ah, mais c'est l'éducation. Mais Fatiha, c'est l'éducation, ma chérie. Tout part, c'est la base. C'est l'éducation. C'est ce qu'on apprend aux enfants à la maison. Tu respectes l'autre. Si le jeune, il fait son ramadan ou autre, hein, eh bien, tu le respectes. Donc, on apprend ça aux enfants. Et vice-versa, tu vois. Ça s'appelle, préparer les enfants au vivre ensemble dans la société, pour une société apaisée. Et ça, c'est l'éducation à la maison.
Eh bien, tu sais.
Tarbiya. Mais oui.
Vanessa, ce samedi, Inch'Allah, c'est-à-dire après-demain,
Inch'Allah.
Elles sont toutes invitées à passer et vivre une soirée de ramadan en bonne et due forme. Tout à l'heure, on parlait d'Octaïf.
Hey.
Et il se trouve que, comme par hasard, ma soeur, qui était venue chez sa fille pour lui garder les enfants pendant
le mois passé,
elle a ramené du Octaïf.
Hey,
donc, Octaïf qui est au congélateur.
Oui.
Donc, on va lui. C'est pas des kémiettes qui se
vendent. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas leur faire comme repas?
Alors c'est ma fille qui va décider. Moi, je vais m'occuper des.
Ah, mais tu vas faire le repas de Ramadan quand même. Shorba ou la harira, ça dépend.
Non, on va dire shorba.
Shorba. Et puis, et le plat.
C'est ce qu'elle va décider.
Attends, Fatiha, pardon. Oui, Cédric.
Par rapport à la charba, tout ça, en fait, on peut même revenir là-dessus parce que on parlait de la région de la classe et tout, mais le Maroc et l'Algérie, en fait, c'est un peu pareil. En fait, même en parlant de la classe, on peut décider la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Donc, tout ce qui est charba, tout ce qui est.
Oui.
La nourriture, c'est la même.
C'est la même.
En fait, tout à l'heure, je ne sais plus qui est intervenu, mais on a parlé de la classe Télia. En fait, quand on voit la classe.
C'est Fatiha.
Il y a une chaîne de. Oui. Qui représente le Maroc. Et pour ça, c'est exactement les
Atlas. Voilà.
En fait, si on suit la chronologie de toutes les années, les centaines d'années, comment différencier un Marocain d'un Algérien? Un Marocain, lui, vivait dans les montagnes. Donc, il était beaucoup plus apaisé, en fait. Il était beaucoup plus dans la...
Oui, mais en Algérie, tu as des gens qui vivent dans les montagnes. En Kabylie, c'est la montagne.
Et en Algérie, justement, il y avait l'Atlas Télien, qui est les hautes plaines. L'Algérie était déjà dessinée le long de la Méditerranée dans un petit relief d'Atlas et sur le presse arrière. Et une autre plaine entre les deux, choses qu'il n'y avait pas au Maroc. Et en Algérie, en fait, les gens sont peut-être un peu plus virulents qu'au Maroc, parce que justement, c'était une terre qui était beaucoup plus axée pour des
qu'est-ce que tu entends par virulent? J'ai pas compris.
Des envahissements.
Les envahissements?
Des envahissements.
Bah, c'est-à-dire que l'Algérie, c'est 4,5 fois la France. Donc, c'est un pays qui était très prisé. C'est ça, tu comprends? 4,5 fois, le territoire était vaste. Et c'est la porte de l'Afrique en même temps, la porte de l'Europe. Et c'est pour ça qu'ils avaient du mal à lâcher, d'ailleurs.
Les riffins étaient toujours isolés dans les autres montagnes. Les riffins étaient toujours isolés dans les autres montagnes, constamment, même jusqu'au Sahara, le long de la Méditerranée. Donc, ça ne peut pas être une terre qui peut être conquérie facilement.
Non, mais attends, le Maroc, c'est pas que le Rif, mon grand. Cédric, le Maroc, c'est pas que le Rif. Le Maroc, tu vas pas me dire que Casablanca, c'est pas le. Voilà.
C'est le nord, voilà.
Donc non, les histoires de, alors de comment on appelle ça, de colonisation, il y a eu les empires avant, donc de colonisation, de protectorat. Il faut écouter les historiens, le pourquoi du comment, pourquoi protectorat, pourquoi colonisation, comme en Afrique. Mais non. Il y a eu.
C'est la géographie qui a dessiné l'histoire, vous voyez ça.
Non, mais c'est pas une question. Les Français, quand ils sont arrivés en Algérie, ou en Afrique du Nord tout court, pour coloniser ou pour protéger, le protectorat, c'est parce qu'il y a eu des arrangements avec les personnages qui étaient à l'époque. Ah non, non, mais je t'assure, je connais bien cette histoire.
Comme là, on est en plein dedans, l'impact de la géographie sur un envoyeur. On est en plein dedans, je pense qu'on peut.
Les colonisations, voilà, c'est pour ça qu'il y a des colonisations et il y a des protectorats. Et en Afrique, il y a des colonisations aussi, en Afrique subsaharienne. Et ça, pourtant, c'est pas des régions où forcément est montagneuse, géographie, etc. Non, il y a d'autres raisons. Essaye de. Voilà, c'est trop long à expliquer.
Je peux te l'envoyer sur Facebook. Étudie-la ce soir, tu vas comprendre. Elle est très simple à comprendre. Je peux te l'envoyer ce soir.
De quoi ?
Tu vas comprendre. L'image que j'ai sous les yeux.
Non, mais c'est pas une question d'image. C'est une question d'histoire et de politique. C'est une histoire de politique. Dire que l'Algérie a toujours été prisée par les colonisateurs. Et pas que la France, d'ailleurs. Tu sais très bien. Pas que la France. Pourquoi ? Ben justement, géographiquement parlant, c'est la porte. Attends,
l'Algérie.
Non, mais moi, je parle pas de 1800. Mais moi, je parle pas de 1800. Mais je remonte. Attends, monte les Phéniciens, la Rome antique, etc.
L'histoire même d'une terre.
Oui.
À aujourd'hui, moi je te parle de choses de
même pendant Jésus-Christ, si tu veux, on y va. Avant Jésus-Christ.
En 728, le règne de Jean Séric, le premier dominant de la région de l'Atlas, qu'on l'appelait, en 428, 477, en 2024. Je ne vois pas te parler d'une région de 1800 à aujourd'hui. De 200 ans.
Mais on ne parle pas d'aujourd'hui, Cédric. On ne parle pas, quand tu remontes du temps des Phéniciens, etc., la Rome, déjà antique.
Aujourd'hui, la carte que tu as sous les yeux, les cultures ont toujours été comme ça, figées comme ça. D'accord, c'est encore ton avis et je peux le respecter.
C'est pas mon avis, c'est l'histoire qui parle.
Si on approfondit, on creuse un tout petit peu plus et qu'on étudie des choses un peu plus approfondiment, je pense que tu t'en auras.
Il y a eu des accords à l'époque. Au Maroc, il y a eu des accords, hein, d'accord, et qui ont été mis en place en 1912 entre le sultan Moulay Abdelhafiz et ce qui était la Troisième République française à l'époque. Tu vois, il faut remonter à l'histoire pour comprendre le pourquoi. Je vais pas refaire l'histoire et t'expliquer le pourquoi du comment. C'est très complexe, mais quand tu lis, tu comprends. Tu comprends. Parce que c'est des histoires qui se sont passées à l'époque. Et à l'époque, ils avaient leur raison d'être. C'est là où tu comprends. Tu comprends? C'est là où on comprend les choses. Oh, et les histoires de colonisation, tu crois qu'ils vont venir juste pour. Non,
moi je parlais pas de colonisation, je parlais d'envahisseurs.
Colonisateur, c'est un envahisseur. Cédric, un colonisateur, si c'est pas un envahisseur, qu'est-ce que c'est un bebek? Écoute-moi. Quand les Français sont arrivés en 1830, c'était pas des envahisseurs? Il y en a aujourd'hui qui disent, certains, à extrême droite, tout ça, qui disent, oui, mais la colonisation avait du bon en Algérie. Mais quel bon? C'était des envahisseurs, ils sont venus, ils ont envahi. Ils ont envahi tout le pays. Kidjarad. C'est.
En Afrique, qui était en plein Sahara et qu'ils avaient besoin de terre. Et quand tu remontais dans le nord, la terre était beaucoup moins aride. Je te parle de ces envahisseurs-là, non? Je te parle pas des envahisseurs, encore une fois.
Moi je te parle de tous les envahisseurs, si tu veux. De toute façon, un pays qui envahit un pays, c'est un envahisseur.
N'a pas une génétique qui a été impactée par cet envahisseur-là.
Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de frontières. Déjà, il n'y avait pas le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Il n'y avait pas de frontières. Il y avait l'Afrique du Nord. Et quand les Romains sont arrivés, il n'y avait pas de frontières.
Pourquoi on dit pur sang arabe? Pourquoi
et, et c'est pour ça que
pourquoi
tu.
Un cheval, tu... un pur sang arabe, pourquoi un pur sang arabe?
Aïe, Cédric, arrête les chevaux maintenant.
Le cheval se cabre. T'as déjà vu un endroit dans le monde où le cheval est capable d'avoir une attitude telle qu'elle? Même Napoléon aurait rêvé d'avoir des chevaux comme ça. C'était des chevaux. C'était le mec arrivé avec des sables. Le cheval s'est bruqué, il foutait deux coups de sabot. Le mec, il en avait tué. Et pourquoi? Parce que c'était une terre qui était le long, là, tout le long de la Méditerranée. C'était, il y avait un commerce énorme. Ça ravitaillait toute l'Afrique, ça envoyait en Espagne, en Italie, pour. C'était énorme à ce moment-là, tu veux parler de 1800.
Déjà, quand tu parles de pur sang arabe, les pays d'Afrique du Nord dont tu parles, l'Algérie, le Maroc et l'Algérie, n'étaient pas considérés comme des pays arabes. Donc les pur sang, les chevaux dont tu parles, viennent d'Arabie. Là où il y a des Arabes, des Arabes, pur Arabes, quoi. Si tu vois ce que je veux dire.
Oui, mais il a été envoyé.
Après, ils ont bougé, les chevaux. Bah, après, ils bougent.
Oui, comme les voitures.
C'est, après, ils bougent, mais là où ils sont. Mais moi, je te dis, là où ils sont nés, en tant que pur sang arabe, ils sont nés en Arabie.
Voilà, et toutes ces terres de. Toute la terre de la Méditerranée, quand on remonte au Maroc. L'Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, après on remonte, Israël, le Liban, et jusqu'à la Grèce, l'Italie, l'Espagne un peu moins, mais ça a été des terres privées en fait. Ah bon, après il y a eu la colonisation comme toi, tu l'as évoqué, mais concernant le Maroc et l'Algérie, comment différencier un peu le peuple, comment on peut différencier un peu en France.
Si tu arrives à la différencier, moi j'arrive pas à la vérité. Je vois pas la différence entre un Marocain et un Algérien.
Le peuple normand et le peuple marseillais, surtout à cette époque-là, comment on peut le différencier?
Ah non, ça c'est des cultures.
Voilà. Et en fait,
ah non, ça c'est culturel, de région à région, mais c'est pas une, il n'y a pas de différence. Voilà, un Normand. Non mais attends, un Normand ou un Breton, ça reste des Français. Mais bien sûr que d'une région à une autre, avec le climat, on a des différences dans culturelles, on va dire dans culinaire. Voilà, comme en Algérie, comme au Maroc. Par exemple, ce qu'on mange, je sais pas, à Tanger, eh ben, il y a des spécificités. À Rabat, c'est autre chose. En Algérie, Alger, c'est une chose. Tlemcen, c'est dans tous les pays, les régions. C'est des spécificités, on va dire, traditionnelles, c'est tout. Mais en réalité, hormis ces traditions qui sont culturelles et régionales, qui font la beauté de ces pays, des pays d'ailleurs, parce que uniforme, ce serait triste. Mais il n'y a rien de différent. Un Français de Bretagne, ou un Français de Normandie, ou de Nice, ou de ce que tu veux, ou de, je sais pas, enfin, ça reste un Français, dans l'âme. Un Marocain, c'est pareil. Avant, il n'y avait pas de frontières. Marocain, Algérien, Tunisien, c'était le même peuple. Il n'y a aucune différence entre un Marocain, un Algérien ou un Tunisien. C'est comme s'il y avait des régions différentes avec des spécificités qui font la beauté de ces régions. Mais un Marocain, un Algérien ou un Tunisien, c'est un même peuple, hein. Vraiment. Hein. Avant, il n'y avait pas de frontières.
Quand je dis plus virulent, c'est que... je sais pas, voilà, on va parler de température, mais en Marseille, beaucoup plus virulente.
Ah, quand tu dis algérien, plus chaud de tempérament. Si tu parles de guerrier, bon. Tu sais pourquoi? Alors ça, c'est même pas une question de climat, parce qu'on a le même climat, hein. C'est juste une question d'histoire. L'Algérien, quand il a été colonisé pendant 132 ans, il s'est forgé, si tu veux, une sorte de résilience et une force. Et pendant 8 ans de guerre, essaye de lire ou de regarder un petit peu les archives de la guerre. La guerre d'Algérie. Attends, Cédric, la guerre d'Algérie. Lis bien. Mais vraiment tout, et tu comprendras pourquoi l'Algérien il est aussi chaud comme ça de tempérament. Tu comprends? C'est comme ça. C'est son histoire qui parle pour lui. Parce que dans chaque les Algériens, comme dans chez tous les peuples, ils véhiculent dans leur sang, cette histoire dans leur sang, ils véhiculent une histoire génétique, c'est une mémoire génétique. Il n'y a pas un seul Algérien qui n'a pas au moins un shahid, Je sais qu'ici, ils n'aiment pas le mot shahid, parce que pour eux, c'est ah, non, non, shahid, on aime bien. Alhamdulillah, Allah yarhamoum. Donc, Cédric, un shahid, dans chaque famille algérienne, il y a au moins un oncle, un grand-père. Moi, mon père, il est mort shahid. Pour te dire, il y a dans
chaque.
Au Mujahid, voilà. Mujahid, il y en a partout. Safia, Fatiha. Dans toutes les familles algériennes, tous leurs grands-parents, leurs grands-mères étaient des Mujahidines.
Faut dire à Cédric quelque chose, un détail. Il est jeune, donc il ne peut pas.
C'est pour ça qu'il faut qu'il apprenne l'histoire.
Oui, mais attends. Parce que là, il parlait de protectorat, parce que là, il est tard pour parler de ça, mais sinon, on va refaire toute l'histoire. Alors, pour l'Algérie, ça a commencé, Cédric, ça a duré 132 ans. Au Maroc et Tunisie, ça n'a pas duré 132 ans. 132 ans, mais qui ont commencé par... alors, pour te donner un exemple, juste comme ça, hein, parce que on parlait de Ramadan, puis on retourne de siècles avant. Mais il y a beaucoup d'avancées, il y a des gens qui sont très positifs, qui font beaucoup de choses pour effacer, c'est-à-dire pour avancer, voilà, pour tourner la page, avancer, on va dire. Quand ça a commencé par l'expropriation des terres en Algérie. Mais
des
comment
pères.
Ça s'est passé? Des terres, oui.
Des l'expropriation.
Alors, quand on parle, je vais citer un exemple tout simple, parce que là, il est tard, on a tellement de choses à dire. On va parler de Bujou.
Ah oui.
On va citer que celui-là. D'ailleurs, dernièrement, j'ai appris que il y a une avenue dans le 16e. Donc il est honoré. Les anciens tortionnaires et les anciens, tous qui ont fait beaucoup de vilaines choses en Algérie, ils sont honorés. Tout est relatif, on va dire. Chacun a ses héros. Voilà. Mais il y a des gens qui redressent l'histoire. Eh bien, lui, quand ça a commencé, il a commencé par l'extermination. Je ne sais pas que l'Algérien, c'était le programme. Alors, quand il y a eu les fameuses enfumades, c'était quoi les enfumades? Je ne sais pas si...
Les enfumades,
Les enfumades, c'était quoi? C'était les chambres, on va dire, entre guillemets, à gaz. Il les a inventées bien avant l'histoire. Quelque chose de c'est différent. C'est-à-dire que, expropriation des terres, les gens qui se révoltaient, bon, il faut voir les révoltes de Mokarani, et si on refait l'histoire, etc. Et ceux qui se révoltaient, le peuple qui fuyait l'armée française, qui devait, parce qu'ils avaient reçu l'ordre de tout exterminer, tout ça, etc., etc. Ils allaient se protéger dans des grottes, donc les montagnes, des grottes. Et il y avait ordre pour les militaires de fermer les orifices de ces grottes par des branchages et d'allumer le feu. Donc automatiquement, les gaz toxiques à l'intérieur tuent tous les gens qui se...
C'est dommage, on arrive à la fin. Fatiha, si tu peux revenir demain pour en parler, parce qu'on arrive à la fin. Alors, enfumade, alors pour ceux qui connaîtraient pas, les enfumades sont une technique utilisée par le corps expéditionnaire français durant la conquête de l'Algérie en 1844 et 45. Du 18 au 20 juin 45, le lieutenant-colonel Pélissier fait périr par asphyxie quasiment toute une tribu berbère qui avait trouvé refuge dans les grottes du massif de Dahra. Voilà. Comme ça, on en sait un petit peu plus sur les enfumades. Ouais. Voilà, chers amis, c'est terminé pour ce soir. Quel dommage. Reviens, Fatiha, parce que tu sens bien connaître, en tous les cas, disons, c'est intéressant. Cédric est curieux, il veut se connaître, il a raison, hein, c'est très bien. Et chaque pays avec son histoire, mais il y a toujours des drames, dans les pays, quand il y a des choses pareilles, des envahisseurs, disons les choses telles qu'elles sont. Voilà. Safia, merci Cédric, merci Fatiha, revenez demain et puis les autres aussi. Voilà, je vous souhaite une belle et douce nuit, chers amis. Saha Sourkoum pour tout à l'heure et puis Saha Ramdankoum pour demain, vous allez jeûner. Merci à Solal pour la réalisation et pour vous avoir répondu au standard. Demain matin, eh bien, c'est la matinale que vous retrouvez de 7h à 10h avec Kim. Et 10h, 11h, les informés, Adil Farkan, l'émission a bougé dorénavant, durant le mois de Ramadan. Eh bien, 10h, 11h, vous avez Adil Farkan et les informés. Les petites annonces, juste après. Alors, 12h, 13h, ah oui, AVS avec Philippe Robichon, n'oubliez pas. D'accord. Et 13h, 14h, c'est avec moi. Vous avez rendez-vous demain. Vous aurez rendez-vous à 13h, 14h pour vos petites annonces. Allez, reposez-vous bien, sahas holkoum, et puis hydratez-vous bien pour demain, pour tenir demain. D'accord. Rabbi qadr koum, inshallah. À demain, je vous aime. Bye.
retrouvez Confidence tous les jours de 22h à minuit et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, la rediff. 13h, 14h, les petites annonces présentées par Vanessa sur Beurre FM.
Bonjour, chers amis, et bienvenue sur Beurre FM. Il est 13h, effectivement. Et nous sommes le mardi 19 mars. Déjà, oui, il fait beau sur Paris. Oui, c'est le printemps, ça y est. Les oiseaux chantent, ben nous aussi, on va chanter. Bienvenue à toutes et à tous. Quelle joie, quel bonheur de vous retrouver en cette belle journée printanière, chers amis. J'espère que vous allez bien, que le mois de jeûne, eh bien, vous le passez le mieux possible. En tous les cas, je vous le souhaite vraiment, et surtout en santé et en sérénité. Voilà, à toutes et à tous. Ramadan Koum, encore une fois. 01 53 48 3000, on va pas tarder, on va pas vous faire attendre plus longtemps. C'est l'heure de vos petites annonces et on y va. Sabrina, elle était la première aujourd'hui et elle nous appelle du 94 du Val-de-Marne. Bonjour Sabrina.
Oui, bonjour
Anita,
ça va bien?
Oui, très bien. Est-ce que tu peux éteindre ta radio, le haut-parleur?
J'ai pas de radio.
T'as pas de haut-parleur?
Non.
T'as quoi?
Rien.
Est-ce que t'as une cocotte minute à la maison?
Oui, j'ai une cocotte minute.
Est-ce que t'as, qu'est-ce que tu vas faire ce soir dedans? Shorba, harira, c'est quoi dans la marmite?
Non, moi je fais shorba, kitra, avec